And this is the Albert Pike racist statue. And they took him off. He was an American author. He was a poet.
C'était un poète, un auteur, accessoirement un officier de l'armée confédérée.
Views on race and Ku Klux Klan membership allegations.
Nous sommes à Washington, au pied de ce qui reste de la statue d'Albert Pike, cet officier de l'armée confédérée. Alors, il n'y a plus que le socle et quelques graffitis Black Lives Matter.
Oui, il y a des gens qui viennent et qui prennent des photos. Hein. Ça a l'air d'être un nouveau lieu de selfie.
Et la statue d'Albert Pike, je crois que c'est la seule statue qui a été déboulonnée hein, à Washington.
Il y a une tentative quand même près du square du Parc Lafayette où on a enregistré un épisode pour déboulonner la statue d'Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis.
Vous savez que Trump a décidé de créer une unité spéciale de protection des monuments historiques et ceux qui s'en prendraient à une statue désormais sont passibles quand même d'une peine de 10 ans de prison.
Le passé, l'histoire mouvementée des États-Unis qui refait surface à travers ces statues. Mais en 2020, à 4 mois de l'élection présidentielle, celui qui vacille en ce moment, c'est Trump. Le président américain traverse clairement une mauvaise passe. Trump, une présidence au pied du mur. C'est l'épisode 19 de Washington DC. Bienvenue. They want to destroy you and they want to destroy our country. I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job. There really isn't any guiding principle that I was able to discern other than what's good for Donald Trump's re-election. Washington, D.C. All I'm doing is doing my job. Don't forget. This is not an ordinary election. Nous sommes dans le quartier de la justice ici à Washington. Il y a toute une série de cours fédérales autour de nous. Et c'est donc ici qu'on va enregistrer le dernier épisode de Washington DC avant la pause estivale. Avec nous, il y a aujourd'hui
Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada.
Raphaël qui vient d'atterrir en provenance du Colorado, c'est ça?
Exactement. J'ai eu à peine le temps de rentrer chez moi, saluer mon chat qui s'ennuyait, sauter sur mon vélo et venir vous rejoindre.
Et dans ce 19e épisode, il y a aussi
Anne Corpet, RFI, et je suis venue aussi à vélo.
Grégory Phillips de France Info, toujours à Washington.
Et Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse. On appellera aussi Sonia Dridi de la RTBF qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. On enregistre cet épisode en toute fin de journée, quasiment au coucher du soleil. Ça donne un certain charme. Alors ça transparaît pas trop en son, en podcast balado, mais c'est très joli.
Et c'est beaucoup moins chaud.
Une présidence Trump au pied du mur, donc, Grégory.
Oui, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que le pays part complètement en vrac avec cette épidémie, la crise économique, la crise politique, Black Lives Matter, les manifestations, etc. Eh bien, c'est un sentiment assez partagé. Dans un sondage Politico qui vient de paraître, 75% des Américains disent que le pays ne va pas bien, tout simplement. Et évidemment, ils disent ça à 4 mois de la présidentielle. Regardez, j'ai amené ce petit gadget que j'avais acheté dans une boutique de souvenirs de Washington.
Très chic.
C'est une espèce de petite horloge qui compte les jours jusqu'au départ de Trump. Alors on imagine que c'est un gadget plutôt pour les démocrates. Et donc aujourd'hui, ce vendredi, on est pile à 4 mois de l'élection du 3 novembre.
Trump d'ailleurs, hein, le président Trump, presque méconnaissable ces dernières semaines.
Oui, on l'a vu notamment sur Fox News, invité de Sean Hannity, où quasiment à demi-mot, il envisageait la défaite face à Joe Biden. The man can't speak and he's going to be your president because some people... Don't love me, maybe. Et Trump dit à propos de Biden, ce gars-là ne s'est même pas aligné 2 phrases et il va devenir président tout simplement parce que les gens ne m'aiment pas.
Ouais, c'est assez étonnant de voir Trump comme ça. Trump qui nous a pourtant toujours habitués à rebondir, à glisser sur les crises, les scandales. Le grand retour d'un président triomphal, c'était prévu à Tulsa, Oklahoma, et puis non, Anne.
Et puis c'était un bide. Hein. Il avait annoncé jusqu'à 1 million d'inscrits pour ce meeting et ben, j'y étais. C'est la première fois que je vois un stade à moitié vide pour accueillir Donald Trump et ça a été dur pour lui. You are warriors. Thank you. We had some very bad people outside. We had some very bad people outside. They were doing bad things. Et en plus, sur le fond, son discours, au lieu de présenter un bilan formidable, de dresser des plans magnifiques pour un second mandat, eh bien Donald Trump, plutôt que de relancer sa campagne, s'est contenté de tirer à vue sur Joe Biden et il a axé son discours sur la menace que représente le candidat démocrate. If the Democrats gain power,
then the rioters will be in charge and no one will be safe. And no one will have control.
Si les démocrates arrivent au pouvoir, a-t-il dit, eh bien ce seront les émeutiers qui tiendront les manettes.
Joe Biden is a helpless puppet of the radical left.
Joe Biden n'est qu'une marionnette aux mains de la gauche radicale. Alors ce discours est quand même pas mal passé hein, auprès de sa base électorale dure, celle qui était là à Tulsa, écoutez Joe et Amber à la sortie du meeting.
If he's not re-elected, it'll be chaos. That's crazy.
Si Trump n'est pas réélu, ce sera le chaos, dit Joe, et sa copine Amber renchérit en disant
yeah, the rioting and the protesting that's going way too far.
Oui, les manifestations du mouvement Black Lives Matter, c'est allé beaucoup trop loin.
Bon, une salle qui était tout de même à moitié vide. Les méthodes, les recettes Trump en politique, ça ne marche plus, Raphaël?
En tout cas, il y a des questions qui se posent sur les messages envoyés par le président et la volonté de l'opinion publique dans certains dossiers qui sont chauds. On peut penser à la pandémie, on peut penser aussi aux enjeux raciaux. On constate que, pour une première fois cette année, la majorité de la population américaine est derrière certaines demandes de Black Lives Matter. Or, le président, lui, répète son message de la loi et de l'ordre. Et ce que disait même Peggy Noonan dans le Wall Street Journal, c'est une ancienne collaboratrice de Ronald Reagan, c'est que tous les gens qui ont voté pour Donald Trump ne sont pas à l'aise avec sa gestion de la crise en ce moment. En fait, elle dit qu'il ne comprend pas sa base et qu'elle n'a jamais vu ça de la part d'un président. Mais il y a évidemment des gens qui ont répliqué en disant « Non, attention, Donald Trump connaît très, très bien sa base la plus dure. » La question, évidemment, c'est est-ce que ce sera suffisant pour obtenir un second mandat?
J'entends ce que vous dites sur les difficultés de Trump. Il y a quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, des signaux faibles, si je puis dire, qui montrent que l'électorat conservateur républicain est toujours là. Vous savez quelle chaîne a enregistré les meilleures audiences la semaine dernière en soirée? Et c'est la première fois?
On prend pas de risque, on dit Fox News.
Fox News.
Oui, alors, Fox News, d'accord, mais devant les grandes chaînes généralistes, ABC, CBS, et c'était inédit. C'est la première fois que Fox, en prime time, avec Sean Hannity, avec Tucker Carlson, dépassait les grandes chaînes familiales et traditionnelles. Donc, attention à ne pas enterrer Trump trop tôt. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent Fox, par exemple.
Non, on n'enterre jamais Trump.
Et puisqu'on est dans les chiffres, peut-être un mot quand même du côté des sondages. Hein. L'écart est en train de se creuser entre Joe Biden et le président. Il semble que ça affecte même Donald Trump.
Oui, il faut dire qu'il perd un électorat crucial, c'est celui des personnes âgées de plus de 65 ans. Elles votent pour le candidat républicain à la présidentielle sans faillir depuis 2004. Hein. Et là, pour la première fois, donc, une majorité des personnes âgées se prononcent pour Joe Biden.
Mais,
c'est très inquiétant.
Pardon, à cause de la pandémie?
Alors, sûrement à cause de la pandémie, parce que ce sont les plus vulnérables au virus, et elles ont peut-être l'impression de ne pas être tellement protégées, prises en compte par le président. Et c'est très inquiétant pour Donald Trump, parce que les personnes âgées sont celles qui votent le plus, donc un glissement peu important dans les sondages, et bien dans les urnes, ça représente beaucoup de monde.
Et ce qui peut avoir un effet important dans le système américain, et vous le savez bien, c'est le collège électoral, donc une poignée d'États qui sont très importants, des États-clés déterminants. Et dans les sondages, dans les États-clés, c'est pas très reluisant non plus pour le président. On l'a vu, entre autres, dans ces trois États très importants qui ont permis à Donald Trump de gagner avec des dizaines de milliers de voix la dernière fois, c'est-à-dire le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Il tire de l'arrière, derrière Biden. C'est aussi le cas dans d'autres États-clés. Et donc, je vous annonce, les amis, que ce sont dans ces États, ces 5-6 États peut-être, qu'on va passer la plupart de notre campagne électorale.
Trump qui n'envisage évidemment pas une défaite, mais un abandon possible avant le 3 novembre, même Fox News en parle désormais.
Franchement, personnellement, j'y crois pas trop, mais la thèse a été évoquée par le Tucker Carlson dont je parlais à l'instant, l'un des présentateurs vedettes des soirées de Fox.
Good evening, welcome to Tucker Carlson tonight. Not many people are saying it out loud on the right, but the fact is that President Trump could well lose this election.
Évidemment, c'est le genre de séquence que Trump n'a pas dû apprécier. On sait qu'il y a aussi une séquence de désamour quand même entre lui et la chaîne conservatrice et qu'il préfère regarder OAN, dont on a déjà parlé ici dans un épisode précédent.
Ouais, et Trump qui a encore, rappelons-le, 4 mois hein, pour renverser la tendance. Tout peut arriver, hein, tout va très vite aux États-Unis, surtout en ce moment. Mais il y a un dossier à suivre de près. Trump, lui, n'en parle quasiment plus. Et pourtant, ça reste un enjeu central. Hein, c'est le coronavirus, t'en parlais un petit peu, Anne, tout à l'heure. On est obligé d'en reparler quand même.
Bah, d'ailleurs, tout près d'ici, à Washington, Washington, il y a une rue qui est bloquée à la circulation. C'est un site de dépistage, donc on en a des rappels fréquents de cette crise.
Une pandémie hors de contrôle aux États-Unis, ça c'est évidemment un élément qui va peser dans la campagne à venir, Grégory.
Ah bah, sans doute tout l'été, hein, et puis jusqu'en novembre. Il se trouve que moi, là, ces dernières semaines, j'ai fait à peu près tous les États les plus contaminés, Arizona, Texas, Californie, et je vais en Floride la semaine prochaine.
Tu mets les stickers sur ton frigo ?
Non, mais on fait attention pour de vrai, parce que effectivement, t'as raison, dans ces États-là, c'est hors de contrôle. C'est exactement la situation telle qu'elle a été décrite, notamment par le fameux docteur Anthony Fauci, c'était il n'y a pas très longtemps, quand il était interrogé par les sénateurs.
Dr. Fauci, how many COVID-19 deaths and infections should America expect before this is all over?
Et donc, quand la sénatrice Elizabeth Warren demande au docteur Fauci à quoi on peut s'attendre, il dit:
I can't make an accurate prediction, but it is going to be very disturbing, I will guarantee you that.
Je peux pas vous faire de projection très précise, mais ça va être terrible. On a 40 000 cas quotidiens et on pourrait bientôt passer à 100 000 cas par jour. La situation, conclut-il, est complètement hors de contrôle.
Et vous savez, la situation, elle inquiète aussi au-delà des États-Unis. Chez moi, au Canada, par exemple, on a fermé la frontière au début de la pandémie, en mars, et la frontière, elle est toujours fermée. Le gouvernement ne semble pas du tout pressé de la rouvrir compte tenu de ce qui se passe ici, même si les Américains, ça représente une part importante du tourisme au Canada. 14 millions d'entrées d'Américains sur le territoire canadien en 2018 seulement, mais quand même, compte tenu de la situation, on veut se protéger au nord et donc on ne semble pas pressé d'ouvrir cette frontière.
Bah, même chose en Europe, hein, les voyageurs américains sont interdits de séjour.
On verra d'ailleurs la réaction de Trump et du gouvernement américain à toutes ces décisions. Je ne suis pas sûr qu'il va forcément très apprécier. Trump qui peut continuer comme ça à ignorer la pandémie indéfiniment?
Bah, pour l'instant, il reste dans le déni. Il a encore fait une déclaration un peu stupéfiante ce mercredi. Il a dit « j'espère que ce virus va disparaître ». Un peu ce qu'il disait en mars dernier, en somme. Mais si la courbe de mortalité se met à repiquer sérieusement vers le haut, bah, il risque d'avoir un problème pour tenir cette ligne.
En revanche, il a infléchi un tout petit peu sa position sur le masque en disant dans la même interview qu'il était prêt éventuellement à en porter dans des endroits fermés. Et puis, si vous regardez, alors c'est vraiment...
Il a même dit que ça lui allait plutôt bien.
Exactement. Et si vous regardez l'Instagram de la campagne Trump 2020, il commercialise désormais des masques avec marqué Trump 2020 dessus. Donc il y a sans doute une réflexion sur le port du masque de la part du président.
Nous sommes toujours à Judiciary Square, le quartier des tribunaux, avec le poste de police également juste derrière nous, ce qui explique ce nombre de voitures parquées, ces voitures de police qui sans doute surveillent aussi les statues. On a parlé de Trump, on va parler évidemment aussi des démocrates, de Joe Biden, et pour ce faire, on va passer un coup de fil à Sonia Dridi de la RTBF, qui était de passage à Wilmington, le fief de Joe Biden dans le Delaware.
Allô?
Allô Sonia.
Salut.
Oui, salut Raphaël.
On t'appelle depuis ce qu'il en reste d'Albert Pike, la statue dans le quartier Judiciary Square. Sonia, on évoque Joe Biden, Wilmington, c'est sa ville. Hein. Toi, tu y es passé il n'y a pas longtemps.
Oui, tout à fait. Et je dois dire que j'étais assez surprise car Wilmington est quand même une ville assez glauque, très déprimante. En fait, c'est une ville assez pauvre avec une population à plus de 57% afro-américaine. Il y a une dizaine d'années, plusieurs grandes usines dont General Motors ont fermé et beaucoup d'habitants se sont retrouvés au chômage. En tout cas, c'est un petit monde. Tout le monde connaît Joe Biden. Il y a été sénateur pendant 36 ans et la ville lui rend hommage. Il y a une piscine à son nom, une gare à son nom. Et la gare est très importante dans l'histoire du candidat puisqu'en fait, quand il a été élu jeune sénateur, sa femme et sa fille sont décédées peu de temps après dans un accident de voiture. Et donc, pour ne pas laisser ses deux fils trop seuls, il a fait les allers-retours en train entre Wilmington et Washington DC avec le réseau Amtrak. Et j'ai rencontré justement une habitante afro-américaine retraitée qui travaillait à cette gare.
I love him. I worked for Amtrak for 35 years.
Voilà, elle me dit, je l'adore, j'ai travaillé pour Amtrak pendant 35 ans et donc quand il était sénateur, je le faisais souvent monter dans le train. C'est vraiment un gars super, un bon père de famille et il a toujours soutenu les Noirs.
Joe Biden qui mène sa campagne depuis chez lui justement à Wilmington, il habite une très belle maison dans le nord de la ville. Il a d'ailleurs fait une rare apparition cette semaine dans un lycée de Wilmington, Sonia.
Oui, tout à fait. Il a même annoncé qu'il n'allait plus faire de meeting de campagne jusqu'à novembre.
I'm going to follow the doc's orders. not just for me, but for the country. And that means that I am not going to be holding rallies.
Il explique aussi que, par exemple, les journalistes sont là devant lui, mais tenus à distance sociale, dans des cercles, que tout le monde porte des masques. En fait, ça fait partie de sa stratégie de campagne, de montrer que lui, contrairement à Donald Trump, écoute les scientifiques, les médecins. Il veut se poser en leader responsable, alors que Trump a récemment tenu un meeting électoral avec des milliers de personnes.
Et moi, j'étais justement de passage à Wilmington lors de cette conférence de presse de Biden. Et c'est vrai qu'il y avait, plus d'agents de sécurité que de journalistes. Et on voyait Biden lire son prompteur dans une salle vide. C'était assez étrange, quoi, une campagne virtuelle. D'ailleurs, à Wilmington, j'ai rencontré Lee Murphy, qui est candidat républicain du Delaware pour un siège au Congrès américain. Et Lee Murphy connaît bien Joe Biden, mais il a quelques doutes sur la candidature de Joe.
Joe Biden qui ne serait plus le même, il est aujourd'hui influencé par la gauche radicale du Parti démocrate, un Biden qui ne semble plus vraiment en bonne santé.
Donc Lee Murphy un peu inquiet, et ça ne s'invente pas, Lee Murphy est acteur et il a joué dans la saison 2 de House of Cards. Vous voyez qui c'était?
Bah, c'était pas Frank Underwood, en tout cas.
Ouais, moi, je croyais qu'il était secrétaire d'État, non?
Non, il était secrétaire à la défense des États-Unis. Il jouait ce rôle-là aux côtés du président qui remplaçait justement Frank Underwood. Et d'ailleurs, je lui ai demandé si cette campagne 2020, la vraie, n'avait pas dépassé la fiction et les scénarios les plus fous de House of Cards.
I think it's worse than a House of Cards scenario. Look, there's no retakes in real life here.
Et sa réponse, oui, c'est pire. Alors voilà, d'ailleurs, en parlant de scandale, Biden, est-ce que lui, il est définitivement à l'abri, l'Ukraine, la Chine, les accusations d'agression sexuelle?
En tout cas, on n'en entend plus parler. Hein. Même les républicains n'évoquent plus en ce moment Tara Reid, qui a été un peu décrédibilisée. Le fils Hunter, je pense qu'on va en entendre à nouveau parler. On le sent venir. Mais la stratégie, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire passer Joe Biden non plus pour Joe l'endormi, mais pour Joe le sénile.
Et l'un des défis pour lui, ce sera justement ces débats contre Donald Trump au cours des prochains mois, pendant cette campagne électorale. Parce que souvenez-vous, pendant les primaires du Parti démocrate, Joe Biden était loin d'être le meilleur orateur sur scène face à ses adversaires.
Normalement, après l'été, 3 débats sont prévus en septembre entre les deux candidats.
Et pour la dernière ligne droite, après l'été, on sait qu'en général, ça se durcit, les campagnes présidentielles. Washington DC, le dernier épisode avant la pause estivale, un été qui s'annonce très compliqué pour Donald Trump. À noter dans vos agendas les conventions.
Alors, j'ai réservé un Airbnb à Milwaukee dans le Wisconsin à partir du 17 août pour la convention démocrate, mais qui sera quasi à 100% virtuel. On sait que Biden sera sur place et qu'il prononcera un discours, mais il n'y aura sans doute pas le Barnum habituel. Et puis, j'ai réservé un deuxième Airbnb à Jacksonville, en Floride, à partir du 24 août, cette fois pour la convention républicaine, où là, normalement, il y aura des milliers de supporters qui viendront voir l'intronisation de Donald Trump. Ce sera une convention un peu plus habituelle avec
avec les flonflons et les ballons.
Exactement, et ce sera donc à Jacksonville, en Floride, quasiment dans l'épicentre de l'épidémie. On verra d'ailleurs si dans les prochaines semaines, durant l'été, ils confirment ce choix ou pas, mais là, on s'en approche.
Confirmé.
Oui, alors c'est quand même un peu embêtant cette histoire de convention virtuelle pour les démocrates, puisque une convention normalement c'est fait pour énergiser les partisans, les motiver peu de temps avant l'élection. Alors déjà qu'il n'y a pas un grand enthousiasme entourant la candidature de Biden chez les démocrates, finalement ça va être un moment assez étrange. Moi je me rappelle, je suis allée aux deux conventions en 2016 et il y a vraiment plein d'événements, des à côté. C'est vraiment là où tout le monde, tous les partisans, les délégués, les membres de la campagne se retrouvent. Il y a aussi beaucoup de contacts qui se créent sur place. Donc, c'est sûr que les démocrates risquent d'être un petit peu désavantagés par rapport aux républicains.
Bon, tu parlais d'événements à Milwaukee. Il y aura quand même le Airbnb, Grégory Phillips, apéro. Ça devrait aller. Si on se projette quand même dans l'été, au cœur de l'été, il y a toute une série d'enjeux qui se dessinent aussi dans les États américains. Alors là, on ne parle pas de l'élection présidentielle, mais du Congrès. C'est un autre gros dossier. Tu voulais évoquer quelques duels intéressants à suivre, Raphaël.
Notamment au Colorado, d'où j'atterris à peine. Il y a une lutte au Sénat qui est à surveiller là-bas. Le sénateur sortant, c'est un républicain. L'ancien gouverneur démocrate se présente pour les démocrates. Il est en avance dans les sondages en ce moment. Et pendant mon séjour à Denver, eh bien, il y avait primaire. Donc, j'ai pu aller parler à une électrice qui nous parlait de l'importance de ce genre de course. Maggie, qui compte tenu de la pandémie est allée voter à pied avec son chien, ça se faisait à l'extérieur, me disait donc qu'il y a quelques sièges nécessaires pour changer la majorité au Sénat, qu'il faut donc surveiller ces courses-là et que c'est important le Sénat pour changer des politiques au-delà du contrôle de la Maison-Blanche, évidemment.
Et oui, parce que sans majorité au Congrès, c'est difficile de faire voter des lois et les présidents sont obligés de gouverner par décret. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en novembre, les sénateurs républicains remettent en jeu 23 sièges, donc ça va être difficile. Et là aussi, les sondages sont pas très bons pour eux.
On est à 4 mois de l'élection présidentielle, on est à quelques heures de prendre des vacances et une pause estivale. Comme tout bon podcast, comme tout bon balado de l'été, on va terminer avec un conseil lecture.
Oui, le livre de Marie Trump, la nièce du président.
Mais est-ce qu'on pourra le lire ?
Too much and never enough, le Québécois peut peut-être traduire.
Trop mais jamais assez.
Voilà. Et jamais assez.
Et jamais assez, ouais.
Sous-titre, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde.
Quand même.
Il paraît qu'il y a dedans des révélations, notamment sur les fraudes fiscales de Trump quand il était homme d'affaires et milliardaire. Et donc, la famille Trump tente de faire interdire ce livre au motif qu'il y aurait eu dans les années 90 la signature d'un accord de confidentialité entre la nièce et son oncle.
Et c'est un livre qui risque de faire mal parce que non seulement elle est membre de la famille, mais en plus elle est clinicienne, psychologue, donc ça apporte une certaine crédibilité, ouais, à ses propos.
La famille, c'est toujours dangereux, hein, en politique, non? Voilà, Washington DC se met en pause pour l'été. On vous retrouve en août pour les conventions démocrates et républicaines. Je me demande d'ailleurs dans quel état on va retrouver la campagne présidentielle après les vacances.
Chose certaine, ça va jouer dur.
Vous dire aussi que nos amis Jordan Davis et Eric Guevara-Frey sont en train de vous mijoter quelques hors-séries. Ça va arriver ces prochaines semaines sur le flux du balado. Vous nous retrouvez aussi sur le fil Twitter de Washington DC. On va vous mettre encore quelques photos de reportages. Wilmington dans le Delaware, le Colorado, Raphaël.
Des magnifiques photos des grands parcs de l'Ouest américain. Si ça vous intéresse, on peut vous en fournir.
Ça permet de souffler un peu. Oui, je vous mettrai quelques photos aussi des plaines de l'Arizona qui sont incroyables.
Moi, je peux vous mettre quelques photos du meeting de Tulsa, si vous voulez.
C'est bien aussi.
Et puis, un joyeux anniversaire aux États-Unis d'Amérique, qui fêtent leurs 244 ans,
oui,
ce 4 juillet.
C'est vrai, un anniversaire dans une ambiance assez particulière, quand même, faut dire.
Happy birthday. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Washington DC, avec
Sonia Dridi, RTBF.
Anne Corpet, RFI.
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Grégory Philips, France Info.
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Mathieu Balmer.
Bon, vous avez des plans pour l'été ?
Bah, moi j'ai renoncé à aller voir ma fille en France, donc on a loué un petit camping-car. On va essayer d'aller vers le Maine, mais il paraît qu'il faut une quarantaine, ouais, des tests, ça va être compliqué.
Quarantaine obligatoire au Canada aussi, la frontière est encore fermée, on ne sait pas pour combien de temps. Non, mais j'ai profité de l'Ouest américain, je vais profiter des États-Unis.
Bon, si vous restez coincé aux États-Unis, venez à Jacksonville en Floride, le petit Airbnb dont je vous ai parlé pour la convention, il y a une piscine.
Ah,
dire.